France Culture.
Les midis de culture, c'est reparti pour un tour à 13h comme promis. Florence Sestac sera mon invitée, mais tout de suite, place au point culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. À la fin de cette année scolaire, l'école supérieure d'art de Valenciennes devra fermer ses portes faute de budget suffisant. De plus en plus d'écoles d'art territoriales voient leurs coûts de fonctionnement augmenter sans que le budget suive nécessairement cette évolution. À l'heure de l'ouverture de Parcoursup, devons-nous nous inquiéter d'éventuels fermeture d'autres écoles d'art en région, c'est notre dossier du jour. Cédric Loire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant en histoire et théorie des arts à l'école supérieure d'art de Clermont Métropole. Alors l'école d'art LESAD de Valenciennes a vu ses dotations baisser de 1,4 million d'euros à 350 000 euros en 10 ans et fermera ses portes à la fin de cette année scolaire. Alors est-ce que cette situation au fond augure d'un danger qui pourrait toucher d'autres écoles d'art régionales ?
Alors oui. La situation, évidemment, est préoccupante, même si le cas de Valenciennes est un petit peu particulier, hein, puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est une école qui a vu ses dotations baisser au cours de plusieurs années, et c'est une école qui dépend en majorité d'une collectivité qui a fait ce choix, en fait, de baisser graduellement les financements. Et donc, évidemment, dans la mesure où l'État en fait finance à hauteur à peu près de 10%, hein, c'est une moyenne, les écoles territoriales. Il était envisageable que l'État compense ces baisses successives de budget. Et donc, malgré les économies, malgré la bonne gestion de cette école par ses équipes, évidemment, il arrive un moment où l'établissement ne peut plus fonctionner. Et donc, c'est ce qui conduit effectivement à la fermeture qu'on constate cette année.
Ouais. Et donc, les ZAD de Valenciennes, justement, c'est une école qui avait été créée en 1782. Donc, elle fait partie aussi d'une véritable histoire patrimoniale française. Alors, comment expliquer justement que l'État ne soit pas venu à la rescousse de cette école pour en empêcher la fermeture éventuellement ?
C'est un peu la particularité des écoles territoriales, c'est qu'elles assurent une mission qui est une mission régalienne, hein, de délivrance des diplômes nationaux. Et d'ailleurs, que ces écoles soient territoriales ou nationales, en fait, hein, c'est simplement une différence statutaire qui est un peu le produit de l'histoire, mais elles délivrent les mêmes diplômes. La seule différence, c'est que les écoles nationales sont gérées directement par le ministère de la Culture et que les écoles territoriales, comme leur nom l'indique, sont financées majoritairement par des collectivités territoriales, donc des municipalités, des intercommunalités, parfois des régions. Et donc, ces collectivités, en fait, assurent l'essentiel de leur fonctionnement. Et l'État, si vous voulez, dans le cas de Valenciennes, a tenté d'intervenir sans doute un peu tard pour voir comment éventuellement les formations pouvaient être reportées sur d'autres établissements. Mais à notre sens, il n'a pas véritablement joué son rôle de tutelle et de défense de ses diplômes, puisque c'est une sorte de... Voilà, c'est une mission qui est déléguée à des collectivités qui n'ont pas d'ailleurs la compétence culture. Donc ce sont vraiment les collectivités aujourd'hui qui portent ces écoles, qui sont
oui, parce que ces écoles,
au nombre de 33.
Oui, elles sont au nombre de 33. Et puis c'est des écoles qui sont reconnues à l'étranger. C'est important aussi pour le rayonnement de la France à l'étranger.
Tout à fait. Ce sont des écoles qui font réseau. Ça, c'est vraiment important. Elles ont chacune un peu leur histoire, leur spécificité, leur inscription en territoire. Et en même temps, effectivement, elles font réseau, elles travaillent ensemble, et donc leur qualité individuelle et collective font que c'est un vrai pôle d'attraction à l'étranger, pour des étudiants étrangers qui souhaitent venir faire des études en France. Et c'est un réseau qui est aussi extrêmement fédérateur, puisque vous avez sans doute entendu parler de manifestations comme Eurofabrique il y a quelques temps au Grand Palais éphémère, et c'est un programme qui continue. Ça implique l'ensemble des écoles et des partenaires européens, par exemple. Et ça, c'est rendu possible par la richesse du réseau de ces écoles.
Donc, il y a une différence que vous nous avez expliquée de statut entre les écoles nationales et les écoles régionales, qui donc dépendent, quasiment en totalité, du budget des régions. Dans l'actualité, justement, ces derniers temps, on a entendu beaucoup parler de nombreuses coupes dans les budgets culturels des régions. Alors, est-ce que pour préserver, quand même, dans une forme de pérennité, ces écoles, il faudrait peut-être changer leur statut ?
Alors c'est effectivement une question aujourd'hui qui peut se poser. Alors changer leur statut ou en tout cas le réviser, puisque le statut des EPCC permettait en fait d'associer dès la fondation, en fait, différents partenaires, différents membres fondateurs, dont l'État. Et aujourd'hui, c'est un peu ça qui fait défaut, c'est-à-dire que le statut des EPCC n'engage pas véritablement les partenaires dans un financement pérenne. C'est ce qui a conduit effectivement à la situation de Valenciennes. Un membre fondateur peut tout à fait décider de son propre chef de réduire, voire de supprimer sa contribution à l'EPCC. Et donc, évidemment, ça conduit à des situations qui sont extrêmement difficiles et qui deviennent ingérables.
Et donc là, Parcoursup a ouvert depuis donc le 15 janvier. Alors, juste pour un mot final, est-ce que les étudiants qui voudraient s'engager dans une école d'art en région doivent s'inquiéter d'une éventuelle fermeture durant leur cursus?
Alors, fort heureusement, non. Même si, évidemment, la situation est préoccupante, hein. Mais il faut aussi dire ou redire que la très grande majorité des collectivités qui financent leurs écoles souhaitent conserver leur école sur le territoire parce que c'est aussi un pôle d'attractivité pour le territoire. Les écoles supérieures, elles proposent des cursus d'enseignement supérieur, c'est leur vocation centrale, mais elles font aussi énormément de choses en partenariat avec d'autres acteurs du territoire. Elles contribuent largement à l'éducation artistique et culturelle pour les enfants, tous les publics. Elles travaillent avec le milieu associatif, avec d'autres structures culturelles ou non culturelles. Donc elles sont très inscrites dans le territoire et elles font partie d'un écosystème. Donc fort heureusement, il y a peu de risques quand même de fermeture, je dirais massive, de ces écoles, mais ça n'empêche pas qu'il faut rester très vigilant sur leurs modalités de fonctionnement et sur leur financement.
Merci Cédric Loire.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, en Turquie, une actrice a été auditionnée par la police pour son rôle dans une série française.
Oui, à Istanbul, l'actrice turque Melisa Sözen, qui a tourné dans une vingtaine de séries et de films, a été interpellée hier pour propagande terroriste. La police l'accuse en effet d'avoir campé le rôle d'une combattante kurde en 2017 dans la série Le Bureau des Légendes. Elle apparaissait à l'écran dans un uniforme des IPG, un groupe de combattants kurdes syriens, une organisation considérée comme terroriste en Turquie. L'actrice proche de l'opposition a finalement été relâchée, bien qu'une enquête ait été ouverte à son encontre. Un événement qui s'inscrit dans un climat de répression à l'encontre de personnalités politiques, d'artistes ou encore de journalistes turcs critiques du pouvoir en place.
La Cour des comptes a publié ce matin un rapport sur la Cinémathèque française.
Déjà pointée du doigt ces dernières semaines pour son éventuel hermétisme aux évolutions sociétales, c'est à présent sur le volet financier que la Cinémathèque vient d'être épinglée. Dans son rapport présenté ce mardi, la Cour des comptes a en effet identifié plusieurs éléments problématiques dans son fonctionnement, comme la mauvaise gestion de ses réserves, qu'il s'agisse de films dont la sécurité incendie n'est pas assurée, ou d'objets dont le stockage coûte très cher. L'institution est aussi critiquée pour son manque d'adaptation aux nouveaux enjeux de diffusion de ses collections à l'heure du numérique. Enfin, le manque de contrôle de la Cinémathèque, financé à hauteur de 20 millions d'euros par l'État, interroge la Cour des comptes, qui appelle à en modifier les statuts juridiques jugés obsolètes. Le journal de la rédaction et Questions du soir reviendront sur ces différents enjeux à partir de 18h.
Et pour finir, Sophie Catherine, la ministre de la Culture a lancé son plan de soutien aux artothèques.
Oui, durant un déplacement à Caen, Rachida Dati a en effet annoncé une aide de 4 millions d'euros pour favoriser le développement des artothèques. Il s'agit d'une des principales mesures de son plan Culture et Ruralité, qui vise à rendre la culture plus accessible sur l'ensemble du territoire. Créées au début des années 80, les artothèques permettent à des particuliers ou des écoles d'emprunter des œuvres pendant quelques mois, offrant ainsi la possibilité au grand public d'avoir un accès intime et personnel à l'art.
Merci Sophie Catherine et on se retrouve demain. En attendant, il est bientôt 13h tout court d'ailleurs, et vous écoutez les Midi de Culture.